The theme, as you all know by now, to fight the good fight.
Le thème, comme vous le savez déjà, c'est combattre le bon combat. Et pas seulement n'importe quel combat, mais le bon combat. Hier soir, j'étais tranquille, assis, et je pensais, mais qu'est-ce que ça signifie combattre le bon combat? Et lorsque j'écoutais le témoignage de Madame Doubé, ça m'a parlé. Elle a dit que sur la terre, les gens prient pour des choses terrestres. Mais au ciel, les gens prient pour la volonté de Dieu. Je me suis dit que en voilà quelque chose. Combattre pour la volonté de Dieu. Pas notre propre volonté, pas nos droits, pas la manière dont on pense que les choses doivent se passer. Mais si seulement on peut combattre pour la volonté de Dieu. Et ce serait vraiment un combat digne, un combat qui aura un sens. Dans notre pays, aujourd'hui, économiquement, les choses ne vont pas bien. Et les gens luttent. Et cela leur donne des raisons pour réclamer, pour combattre, pour plus d'argent, pour plus de ceci ou cela. Mais combattons pour la volonté de Dieu. Et ne pas se joindre à un combat, à un combat qui n'est pas de Dieu. Ce soir, j'aimerais parler sur le thème de l'esclavage, l'esclavage et le serviteur, ou l'esclave et le serviteur. Tout d'abord, la personne qui est liée par les chaînes. Très souvent, la personne qui pense qu'elle est libre, dans sa pensée, il se dit libre, mais en réalité, lié par les chaînes de Satan. Le deuxième, une personne qui doit être libre, mais il pense qu'il est toujours lié par les règles, par les lois. Et troisièmement, celui qui est réellement libre. Et j'aimerais commencer dans le psaume 116, verset 16. Psaume 116, verset 16. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur fils de ta servante. Quand on lit cela, on peut se poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je change un maître pour un autre maître? Quelqu'un me libère d'une chaîne et ensuite je deviens esclave ou lié par une autre chaîne. Nous ne devons pas être dans la confusion quand il s'agit d'être lié par les chiens de Satan et être esclave de Dieu. Il n'y a pas de comparaison entre les deux. Être esclave du diable, c'est la pire des situations dans laquelle tu peux te trouver. Mais être serviteur du Très-Haut, c'est la meilleure chose, la meilleure place où tu peux être. Nous ne devons pas confondre les deux. Parce que il y a une grande différence entre les deux. Et pour décrire la première personne qui se dit libre alors qu'il est lié, j'aimerais dépeindre l'image dans ta pensée. Et garde cela dans ta pensée pendant que nous parlons. Quand tu sortiras, quand tu partiras, rappelle-toi de cette image. Il y a une manière pour attraper un singe. Ce qu'ils vont faire, ils vont poser une cage et puis ils vont la fixer au sol. Dans cette cage, ils vont mettre quelque chose que le singe aime vraiment, peut-être une pomme rouge. Et quelque part, dans un côté de la cage, ils vont faire un petit trou là où la main du singe peut pénétrer, juste là où la main du singe peut rentrer. Ils vont mettre la paume proche du trou afin qu'il arrive à facilement attraper la paume. Et une fois qu'il a saisi la paume, sa main devient grosse. Et vous allez remarquer que le singe ne peut plus retirer sa main parce que sa main est grosse et le trou, il est petit. Et on dit que le singe restera là avec la paume dans sa main. Et il ne se libérera, il va pas se libérer. À tel point que celui qui a mis ce piège-là arrivera, il peut même arriver à côté de lui, faire de lui ce qu'il veut, il ne bougera pas. Il peut même le mettre dans une autre cage et il peut même le tuer, il peut faire tout ce qu'il veut. Et le singe sera sans défense. Et c'est comme ça que le diable nous tient. Il met quelque chose là, c'est attrayant, ça nous attire. Tu as l'air d'avoir déjà le goût quand tu le vois. Et ça nous donne la possibilité de saisir la chose, de prendre la chose. On l'a déjà même dans notre main. Et à ce moment-là, on est saisi. Et sans laisser cette chose, on ne sera pas libre. Il nous sera demandé de laisser cette chose. Mais tel que nous sommes, nous restons toujours attachés aux choses. Nous ne laissons pas... On n'abandonne pas les choses et le diable nous utilise. Et il y a plusieurs manières que le diable nous utilise. Et il y a plusieurs différents fruits qu'il met dans cette cage. Je suis encore jeune. Je ne connais pas l'histoire il y a 60 ou 70 ans en arrière. Et il me semble que le diable, l'une de ses meilleures tactiques, même jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le péché sexuel. Quand on regarde dans le monde, c'est comme si le diable est en train de prendre du terrain. Ce qui avant était considéré comme un péché entre le garçon et la fille, et c'est même aujourd'hui dans la famille. Comment le diable a pu réussir à corrompre nos pensées de cette manière? Comment il a pu réussir de le faire des fois même parmi nous? Et ce n'est même plus entre le garçon et la fille. Et ça peut même être un cousin. Le cousin mâle et la cousine. Un cousin et une cousine. Parents, ne négligeons pas le diable parce qu'il est sorti pour détruire. Le diable n'a pas de morale. Il, lui, ne joue pas selon les règles. Il va faire tout ce qui est à son possible pour nous avoir et pour avoir nos enfants. Et même pour les personnes âgées, il peut même avoir vos petits-enfants. Et comme nous connaissons le diable, il peut même aller encore plus loin. Ne soyez pas surpris. Je dis ceci avec peur, crainte et tremblement. Ne soyez même pas surpris si le diable réussit même entre frères et sœurs. Nous devons faire attention. Attention de ce que le diable peut accomplir. Je ne dis pas que nous devons être juste là sans rien faire, mais nous devons prendre note de ce que le diable peut accomplir. C'est facile quand vous avez des petits-enfants, garçons et filles. On se dit que, on pense que s'ils ont 3-4 ans, ils sont innocents. Et c'est facile de les laisser s'habiller pendant que l'un voit l'autre et dans la même pièce, dans la même chambre. Et si on est négligent, le diable pourra utiliser cela. Et par cela, il peut planter une graine. Parents, faisons attention. Et si vous pensez que, si vous pensez que cela déjà est arrivé, ce ne serait pas seulement la... Si vous pensez que cela ne peut pas arriver, non, ce n'est pas la première fois. Ces choses-là sont déjà arrivées, pensez un peu aux enfants de David, Amon et Tamar. Pourquoi le diable a fait cela déjà au temps de la Bible? Pourquoi il ne pourra pas encore le faire aujourd'hui? Donc faisons attention. Les garçons qui touchent les filles, parents, est-ce que vous avez enseigné à vos enfants? « Est-ce que vous avez déjà passé du temps calme assis avec votre fille en disant « Ma fille, aucun garçon ne doit te toucher. » Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez vraiment inculqué cela en eux? Et si on ne le fait pas, peut-être quelque chose arrivera. Nous, les parents, nous serons responsables. Est-ce que nous avons déjà enseigné à nos garçons, ne touche pas à une fille, sinon on sera coupable. Aujourd'hui, on doit maintenant dire aux garçons de ne pas laisser aux filles te toucher, parce que les choses sont maintenant en sens dessus-dessous. Il y a quelque chose que nous voyons de plus en plus de nos jours. Et je vais vous lire ce que la Bible dit. Dans Romains 1, au verset 26. J'ai apporté ma Bible parce que ma Bible le dit de manière très claire. Ce n'est pas ce que moi je dis, c'est ce que Dieu dit par sa parole qui est inspirée par lui. C'est ce que le Dieu vivant dit, que si on n'obéit pas, nous allons nous tenir devant lui un jour. Romains chapitre 1 au verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, comme étant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est ce que le Dieu vivant dit. Et nous serons devant lui un jour. Et nous serons jugés par ce que nous avons lu. Ne soyons pas des ignorants. Ne cherchons pas à entourer ces paroles-là avec quelque chose de sucré ou de doux. Alors, aujourd'hui, les gens, s'ils sont filles qui veulent devenir garçons, ils peuvent choisir comme ils veulent. Et si tu es fille et que tu veux devenir garçon, tu as quelque chose qui peut être une récompense qu'on va te donner. Nous avons appris ces jours sur Noé, dans la réunion de Clairlo, comment Dieu les a détruits. Comment Dieu les a détruits. Et nous servons aujourd'hui le même Dieu. Et si nous continuons dans les mêmes péchés, pourquoi Dieu ne nous détruira-t-il pas? Alors tu dis que tu es libre, libre de faire ce que tu veux. Tu peux courir après n'importe quelle fille que tu veux, tu es libre. Mais c'est un mensonge qui vient du fond de l'enfer. Tu n'es pas libre. Tu ne peux même pas contrôler ta pensée quand une fille passe à côté. C'est ta pensée, ton esprit qui te contrôle. Tes pensées te contrôlent. Ta convoitise te contrôle. Tu n'as pas vraiment de mots à dire. Tout le monde qui passe devant toi, ta pensée accourt. Tu n'es pas libre. Tu es lié par les chaînes de Satan. Tu as cette pomme dans ta main et tu n'es pas libre. Tu étais libre de prendre cette pomme et maintenant tu es lié. Et tu dois t'en rendre compte que lorsque je commets quelque chose contre la volonté de Dieu, le diable m'a eu. Si je ne suis pas prêt à abandonner cette chose, le diable m'a eu. Et chaque jour, je dois résister. Dimanche, nous avons entendu, écouté un bon message, un bon témoignage du garçon qui a dit que j'ai apporté cette chose à la lumière et j'ai reçu la liberté. Rends-toi compte que tu es lié, tu es esclave. Il y a tellement de choses que qu'on peut dire. Ces jours, nous avons entendu Baba Ngoubane qui a parlé sur l'alcool. On dit que pendant le confinement, la boisson, voilà. Que le blé, c'est quoi, le blé ou le qu'on fait de l'alcool avec avait fait bon marché pendant le confinement parce que les gens utilisent ça pour faire de l'alcool. Et le but du diable, c'est pour nous détruire. Il a perdu sa place au ciel et il te veut aussi. Et il va te mettre quelque chose dans cette cage. Non pas quelque chose que tu n'aimes pas, mais quelque chose que tu aimes bien. La Bible dit que nous devons mourir au péché. Quand vous voyez un corps sans vie ou un cadavre, vous pouvez le toucher, vous pouvez le retourner, il ne bouge plus, il ne fait aucun signe. Et c'est comme ça que ça doit être. S'il y a encore quelque chose en moi qui aime encore ce péché, je ne serai pas libre. Je me rappelle, une fois, un fumeur m'avait raconté, il m'a dit, j'aimerais abandonner la cigarette. Je ne veux pas fumer. Il a dit, mais il n'y a rien comme la cigarette. Quand je suis nerveux, quand je suis stressé, je prends une cigarette et ça me soulage. Comment pourra-t-il arrêter de fumer? parce qu'il aime encore cette cigarette. Mais il y a encore quelque chose dans la cigarette qui dit non, il y a quelque chose que j'aime avec la cigarette. Peut-être avec tes pensées, il y a encore quelque chose que tu aimes. Peut-être dans ta colère, il y a encore quelque chose dedans là que tu aimes. Tu dis, tu parles à quelqu'un et tu lui dis tes quatre vérités. Et à cause de cela, je reste ferme avec cette paume, je tiens cette paume, je ne veux pas l'abandonner. Peut-être tu dis que je n'ai pas de problème avec le péché sexuel, avec l'alcool, avec le tabac. Mais il y a d'autres problèmes. Ça peut être que je suis obstiné, ça peut être que je veux toujours avoir les choses se passer comme je veux. Et ce que je veux, c'est ce qui doit se passer. Peut-être je crois toujours connaître mieux que tout le monde. Peut-être je critique. Même critiquer un frère chrétien. Je critique un compagnon chrétien et c'est peut-être ça la paume que j'ai dans ma main. Peut-être je ne suis pas uni avec mes frères. Peut-être c'est la partie là que je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas vraiment m'unir avec mes frères et sœurs. Et je suis saisi dans le piège du diable. La deuxième personne que j'aimerais citer ce soir, c'est celle qui pense qu'elle est libre alors qu'elle n'est pas libre. Nous avons entendu ce que le maître de cérémonie a dit sur les soldats qui brûlaient les ponts. Il y a une autre tactique qui est utilisée aussi, et des fois, parmi les chrétiens. Dans la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont envahi la Russie. Et les Russes étaient en train de se rendre l'un après l'autre. Et de plus en plus, et même dans un grand groupe, ils se rendaient, ils se livraient. Et le commandant russe, il a pensé à un plan. Et ils ont mis derrière un soldat, ils en mettaient un autre. Vous pouvez lire ça dans le livre d'histoire. Il mettait un soldat avec un fusil derrière un autre soldat. Et le but du deuxième soldat derrière le premier était qu'il tire sur le premier si le premier voulait se retirer pour s'enfuir. S'il y avait un signe dans le premier soldat qui n'était pas prêt à combattre, le deuxième soldat le tuait. Donc chaque soldat savait qu'il n'y avait pas à regarder en arrière, il n'y avait pas à penser à se retirer, à repartir. Il fallait juste continuer. Je préfère combattre l'ennemi que celui qui est derrière me tue. Est-ce que c'est pas comme ça que la vie chrétienne est enfin, si ta vie est comme ça. Tu n'as pas encore atteint vraiment la vie chrétienne. Si tu veux juste, si tu obéis seulement à tes parents parce que tu ne veux pas recevoir une fessée. Oui, c'est bon d'obéir aux parents, même si tu ne le comprends pas encore. Mais ce que j'aimerais te dire, qu'il y a quelque chose de plus dans la vie chrétienne que simplement ça. Qu'il y a quelque chose de plus qu'on peut obtenir que de faire quelque chose parce que simplement je ne veux pas, par exemple, une fessée. Il y a quelque chose de plus qu'on peut obtenir que de faire quelque chose parce que je suis obligé de le faire. C'est un bon commencement, mais on peut atteindre quelque chose de meilleur. Et il y a quelque chose de mieux qu'on peut obtenir, de meilleur, quand on dit « je veux faire ce qui est juste ». Je veux le faire parce que c'est Dieu qui me demande de le faire. Je veux vivre une vie pure parce que c'est ce qui m'apporte la paix. Ta vie chrétienne ne doit pas être avec quelqu'un derrière toi, avec quelqu'un qui est derrière toi en tenant un fusil. Et tu dois rechercher quelque chose de meilleur. Et si tu n'as pas cela, demande au Esprit, demande au Seigneur de te l'accorder, demande que le Créateur te crée ça en toi. Va vers un homme de Dieu. Va vers un homme de Dieu et dis-lui que ma vie est comme la vie de ce soldat. Mais je veux quelque chose de meilleur. La troisième personne que j'aimerais citer, c'est celui qui est réellement libre. Il y a très longtemps, dans la Révolution française, il y avait un endroit, et dans cet endroit était dirigé par un roi, gouverné par un roi et sa famille. Et on ne pouvait jamais renverser cet endroit parce que cet endroit était toujours soutenu par le peuple. Et l'ennemi avait pensé que la seule manière qu'on pouvait avoir ce peuple, c'est de tuer leur roi et sa famille. Et à ce moment-là, on pouvait les avoir. Ils ont réussi à tuer le roi et sa famille, excepté un seul fils. Le seul fils s'est évadé. Il a pu échapper. Ils l'ont poursuivi, ils l'ont cherché pendant quelques jours et au final, ils l'ont rattrapé. Et à ce moment-là, les gens étaient déjà sans roi. Ils ont attrapé le fils du roi et l'ont placé dans une salle. Dans une prison, à la prison. Et ils ont préparé la cérémonie pour que le lendemain, qu'il soit décapité. Le tuer pour finir vraiment la lignée du roi. Et dans cette communauté, quelqu'un s'est rendu compte de ce qui se passait. Il avait porté un manteau, un gros manteau, une écharpe et un gros chapeau et tout ce qu'il avait, il était pour qu'il soit vraiment réchauffé. Et il est parti, là-bas, il a demandé que « permettez-moi de parler encore à cet homme-là une seule fois. Permettez-moi de lui parler encore une fois, permettez-moi d'aller jusqu'à sa prison, jusqu'à sa cellule. » Et c'est comme ça que on l'a permis, on l'a amené, on l'a ouvert et puis on l'a fait entrer dans la cellule. Quand cet homme était dans la cellule avec le fils du roi, il a dit rapidement, toi tu prends mes vêtements et toi donne-moi tes vêtements. Tu prends mon manteau, mon chapeau, tu porteras tout ce que j'ai sur moi. Et quand le fils du roi avait fini de tout porter sur lui, il dit maintenant, tu sors. Tu passeras le gardien de prison et il pensera que c'est moi qui suis en train de sortir. Et tu vas libre et vas vers ton peuple. Et tu accompliras ton but. Et moi, je resterai ici dans cette cellule. Et le fils du roi a fait cela, il est sorti et il était libre. Et le lendemain, cet homme, il a été décapité, pensant que c'était le fils du roi. Que penserez-vous de cet homme, le fils du roi, s'il sort libre et puis va faire tout ce qu'il veut, n'importe quoi? Que penseras-tu que si le fils du roi sort de là et puis il disparaît? Qu'est-ce que tu penseras de lui si il n'accomplit pas le but pour le quoi il est sorti? Ne diras-tu pas que cette autre personne est morte pour rien? Et diras qu'il est mort pour rien, il n'y a vraiment pas de raison pourquoi il est mort. Et ce serait peut-être inconcevable. Non, le fils du roi ira accomplir son plan ou son but, peut-être même plus qu'avant. Ne dira-t-il pas que cet homme, il est mort pour moi, je dois faire quelque chose. Je dois être un meilleur roi. Sinon, l'autre est mort, c'est livré pour rien. Chers enfants, chers auditeurs, le Seigneur est mort pour nous. Le Seigneur Jésus est mort pour nous sur la croix. Comme cet homme qui a donné sa vie, pour, non pas qu'on tombe dans le péché, pas pour suivre nos propres désirs, faire tout ce que nous voulons. Il est mort pour nous, pour un but. Et un jour, nous serons devant le Dieu vivant. Et il dira que je suis mort pour toi. J'ai livré ma vie pour toi, pour un but. Et qu'as-tu fait avec cela? Qu'as-tu fait avec ta vie? Je ne sais pas. Comment arriverons-nous à nous tenir devant lui si on n'a pas encore accompli ce but-là, cette raison? Je ne sais pas comment nous allons nous expliquer. Parce que c'est comme ça que nous sommes, nous aimons toujours à nous expliquer. Mais en ce jour-là, il n'y aura pas à se justifier, il n'y aura pas d'explication. Parce que nous allons rencontrer le Dieu vivant, celui qui est mort pour nous. Et ce qui est intéressant est que si nous suivons ce Dieu, si nous suivons, accomplissons son but, c'est à ce moment-là qu'on sera réellement libre. Peut-être que tu diras que pour moi ça n'a pas de sens, je suis serviteur. Et c'est là que tu sauras que tu es réellement libre quand la paix inonde ton cœur. Quand tu accompliras le but pour lequel il est mort pour toi, c'est à ce moment-là que je dirai que je suis libre. J'ai la paix, j'ai l'accomplissement, j'ai le but. Même si je suis serviteur, David a dit que je suis. Et dit David a dit que je suis le serviteur du serviteur. C'est pourquoi je suis libre. C'est pourquoi quand je me réveille le matin, je peux dire merci au Seigneur. Parce qu'il m'a libéré des choses du monde. Ne veux-tu pas être libre? Ne veux-tu pas recevoir cette paix? Ne veux-tu pas recevoir cela pour dire que je suis réellement libre? Et si c'est le cas, viens à Christ et apporte ton fardeau. Apporte-le à la lumière. Et à ce moment, tu seras vraiment libre. Que cela soit ainsi dans nos vies. Et que nous abandonnions cette pomme. Que l'on se rende compte de ce qui nous lie. Pour que nous apportions cela à la lumière et que nous apportions cela au Seigneur et que nous recevions la liberté. Il n'y a rien de pareil dans cette vie. Il n'y a rien de proche, il n'y a rien qu'on puisse comparer avec cela. Et c'est ce que le Seigneur espère de tout le monde.
We thank the Lord for his word tonight.
Nous remercions le Seigneur pour sa parole ce soir. Je ne sais pas ce que ça fait à toi, mais moi, quand j'écoutais, j'étais béni. Parce que ce que tu as entendu, c'est la vérité. Et la vérité peut te rendre libre. J'aimerais demander à oncle Detlef s'il peut s'avancer pour prier pour nous.
Let us pray.
Nous allons prier. Nous te disons merci, Seigneur, pour l'occasion que nous avons de crier à toi pour la rédemption, pour la délivrance de nos péchés. Peu importe combien honteux ou mauvais nos péchés ont été, nous, Seigneur, nous te prions de nous aider à venir à toi ce soir. Nous ne pouvons pas comprendre qu'en étant ici sur terre, qu'on ne se lamente pas, qu'on ne regrette pas, qu'on ne pleure pas sur nos péchés, alors que toi, tu es mort pour nous. Après que tu sois mort à notre place et que tu as porté toute notre dégradation et notre saleté, qu'on adoucisse nos cœurs et entende ton appel pendant que tu cries, que tu nous appelles, et qu'on sorte, qu'on vienne pour t'apporter nos fardeaux. Et que pendant notre jeunesse, on peut déjà avoir ce témoignage d'être sauvé par Christ. En vivant une vie libre de tout péché qui nous a asservis. Et en ayant la détermination de vivre comme ton peuple que toi-même tu as choisi, et que tu as détaché, retiré de l'esclavage de Satan. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole qui pénètre nos cœurs. Aie pitié de nous, afin qu'on s'incline dans l'humilité et qu'on se tourne vers toi. Et Seigneur, et qu'il y ait beaucoup qui choisissent la vie et non l'enfer. Et non pas la mort. Nous te demandons, Seigneur, qu'alors que nous entrons dans cette nuit, par ta grâce, nous te prions d'agir dans chaque cœur. Et qu'on se réveille comme des personnes libres après avoir réglé nos affaires. Choisis à nouveau par le Seigneur et le Maître, en tournant nos dos à Satan et à tous ces flatteries et à tous ces désirs. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'on peut crier à toi seul, où il y a le salut en ton nom. Amen.